Vous écoutez
RMC.
Méfiez-vous des propos de Pogacar.
RMC jusqu'à midi.
Bennett.
Quoi?
Mais tu voulais dire un truc.
Ouais, mais tu m'as coupé, donc je sais plus.
Les grandes gueules du sport.
Et on sait qu'il est l'élu.
Donc
il prend son temps.
Ça vient de toi.
Il prend son temps.
J'ai passé la soirée samedi soir.
Ah, elle est là.
Georges Quilineau.
C'est n'importe quoi ce matin, les grandes gueules du sport.
C'est trop bien de faire ça en plein dans l'émission.
Ah, mais tu crois quoi, Alban Andréis, notre réalisateur, il est là. Hein, il est là pour faire le very best of tout de suite des grandes gueules du sport. Alizé Cornet, Julien Beneteau, Marc Madiot et Christophe Cessieux sont là. Alizé Cornet, Julien Beneteau, parce qu'il y a la finale de Roland-Garros chez les hommes aujourd'hui. Zverev, Koboli à 15h. Dernier jour de terre battue derrière. Il faut aller sur le gazon d'ailleurs.
Hein, oui, alors il y a quand même des tournois secondaires et il y a encore des tournois un petit peu sur terre battue.
La transition est incroyable.
Mmh. Ah ouais,
c'est complètement différent. L'ambiance est différente. Tu vas en Angleterre jouer sur gazon, tout est plus feutré, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Tu as passé 5 semaines, 6 semaines et les 15 derniers jours dans la lessiveuse de Roland-Garros, le contraste il est saisissant.
Et il faut plier les jambes aussi hein, sur gazon.
Ouais. Non, mais c'est ça, je vais te dire.
Là, je peux te dire que c'est pas le même effort physique.
On y pense pas, c'est vraiment différent. C'est
ça n'a rien à voir. Tu cours pas de la même manière, tu t'ancres pas de la même manière dans le sol.
Les deux premiers jours, ischio, fessier, bateau, tu peux pas bouger.
C'est des courbatures incroyables.
Monstre.
Moi, j'ai jamais eu ça, mais je pense que j'avais des fessiers plus costauds que ceux de Bennett. Je te jure, non.
Non, mais c'est vrai, tu dois plus glisser du tout. C'est pas les rébus qui sont sollicités entre la terre battue.
Le Queen, c'était vraiment collé à Roland.
Le tournoi du Queen,
Les filles ont un tournoi au Queen, c'est collé. Mais chez les hommes, il est historique et c'était collé. Alors là, il y a une semaine, un jour, moi j'étais déjà au Queen depuis 2 ou 3 jours, mais Rafa, lui, il arrive tard au Queen. Et le lundi matin, je le croise dans l'ascenseur de l'hôtel, alors qu'il venait de gagner Roland la veille. Mmh. Et je lui dis, putain, il était déjà là. Je lui dis, comment ça va? Il me fait, bah, ça va bien, je viens de gagner Roland, en gros, toi. Il me dit ça. Et le soir, je le vois, il va taper sur le gazon à 17h. Et là, je me suis dit, mais moi, à sa place, si j'avais gagné Roland.
Je fais la fête avec les Bordelais.
Ah, mais Bordeaux à côté. Et je me dis, putain, lui, le lendemain, il est là, il tape sur le gazon. C'est pfff.
Mais tu sais, 14 fois, c'est comme s'il achetait sa baguette.
Il n'est pas fait comme ça.
Alizé, tu as vu que Serena va s'aligner en double.
T'as pas envie de passer à côté de
faire un petit double avec elle?
C'est mon rêve, mais moi, je suis retraitée, tu sais.
Elle était retraitée.
Pas officiellement.
Ah!
Oui, elle a jamais dit qu'elle.
Tu fais des contrôles antidopage depuis un an.
Moi, je me suis retirée de tout.
Alizé,
je suis plus dans le game.
Alizé, demain, là, t'as un appel en transe, Serena Williams.
Elle peut pas.
Alizé,
elle peut pas.
Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi dans un an? Ah! Tu prends la nationalité américaine et on fait les JO ensemble.
Je prépare mon comeback.
C'est ça les grandes gueules du sport, hein, quand on passe à la terre battue au gazon. Bah, je sais pas, Marco, c'est après Paris-Roubaix, après avoir passé les pavés.
Quand tu passes les arrêts de Roubaix le dimanche,
tu vas sur YouTube,
t'es
content.
Tu faisais la flèche wallonne le mercredi.
C'est pas le même revêtement. T'as les bras qui tremblent plus, quoi. Tu passes plus sur des pavés, quoi.
Donc le vestiaire des GG, en fait, il est sur l'adaptation.
C'est une émission qu'on qualifierait un peu de liquide.
C'est
une
hein,
comme ça. Voilà,
émission liquide pour les gens liquides.
Pour toi. Allez, dans un instant, les GG sur le buzzer. Le retour en premier plan d'Hamilton et Verstappen. Relance-t-il la Formule 1? Il me donne des balles, c'est incroyable. Je viens avec un Colt, il n'y a pas de balles dedans, il me le charge. En fin d'émission.
J'aime bien me faire mettre.
Les gens aiment bien.
Le temps d'exécution.
Participez au GG du sport avec vos GG en fin d'émission. Aujourd'hui, remportez votre enceinte portable Mino X de Lexon. Appelez le 32-16, touche 4 pour participer ou envoyez sport au 7-32-16. Les deux premières heures des GG en podcast à retrouver. Et quand il y aura une bonne réponse, vous avez entendu, ça se passera comme ça. Et s'il y a deux bonnes réponses d'affilée, ça fera... Voilà, c'est incroyable.
C'est la même chose.
C'est dingue, j'aurais adoré DJ. Allez, tout de suite, on ouvre la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG, je vous l'ai dit, ce qui m'a marqué ce dimanche, c'est la présence donc de l'Italien Flavio Koboli en finale à Roland-Garros face à Alexander Zverev, à suivre sur 14h. Dès 15h, Koboli a une particularité, il est superstitieux. Écoutez.
I'm a little bit, but not
crazy. Je le suis un peu, mais cela ne me rend pas fou non plus. Mais cette semaine, je suis peut-être un peu plus hors de contrôle que d'habitude. Je vais dans le même restaurant, je choisis le même plat, je choisis la même douche. Je crois que j'ai dit dans la première conférence de presse que j'utilisais la même douche que Rafa parce que j'ai des souvenirs de cette douche que j'ai essayé de lui piquer. Il a toqué à la porte et je devais me dépêcher parce qu'il attendait que je finisse. Il m'a dit que c'était sa douche depuis 14 ans. Je pense que la chose la plus importante, c'est sans doute cette histoire de douche.
Bah, je suis juste un peu superstitieux, hein, mais je mange la même chose, je vais au même resto, je me douche au même endroit. Non, mais voilà, ça va, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Alors, il parle de Nadal qui, dans son documentaire sorti cette semaine sur Netflix, que je vous recommande d'ailleurs, il parle de ses rituels, hein, vous savez, ces fameux trucs-là, avec il se remet un peu le matériel en place sur son short.
Pardon,
il se touche les sourcils. Je parlais de son cordage. Son propre cordage.
C'est un cordage.
Non mais voilà, et donc Nadal dit que son entourage lui a essayé de dire mais arrête Rafa, il y a des trucs quand même, c'est un peu ridicule, et il dit qu'il n'y arrive pas, hein, notamment sur les balles de break à Roland-Garros. Il fallait absolument qu'il nettoie la ligne de fond de court devant lui, sinon il pouvait pas jouer la balle.
Il ne marchait pas non plus, Rafa, sur les lignes. Il remettait ses bouteilles exactement de manière symétrique.
Exactement.
La liste était longue comme le bras.
Ah ben là effectivement, alors les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Ça a plutôt pas mal marché d'ailleurs pour Rafa, il a gagné 14 trucs. La place des rituels et des superstitions dans le sport de haut niveau. Est-ce que c'est ridicule ou essentiel? Tiens, d'ailleurs, c'est une question qu'on pourra se poser dans quelques instants. Mais Bennett, je t'ai vu opiner quand Alizé a dit ouais, il voulait pas marcher sur les lignes. Est-ce que Julien Benneteau marche sur les lignes?
Non, moi je marchais pas sur les lignes non plus. Mais je sais pas pourquoi.
C'est même pas pratique sur un court de tennis.
Entre les points, je marchais pas sur les lignes quand tu allais chercher la balle au filet ou au fond du court, quand tu te lèves la chaise. Il y a deux trois trucs comme
ça. Et pourquoi? Pourquoi?
Je sais pas pourquoi.
Quand est-ce que t'as commencé?
Faut pas chercher à comprendre.
Ouais.
Je sais pas, mais comment ça se met en place, en fait? Un rituel?
Ça se met en place, au fur et à mesure, des habitudes très, quand t'es petit, quand t'es jeune, et
ça te rassure.
Et ouais, voilà. Et il y a tout un, exactement. C'est un cadre qui est là pour te rassurer. Coboli parle de la douche. Moi, à Roland-Garros, j'étais souvent dans le même, dans le même côté du vestiaire.
J'essayais de prendre le même casier.
Donc, du coup, je faisais que, souvent, la semaine d'avant le tournoi, moi, de temps en temps, je jouais en tournoi. J'appelais le mec du vestiaire, il y avait le téléphone, en disant pour réserver le casier. Je connaissais le numéro du casier, voilà.
Ah, les filles, moi, elles me le réservaient automatiquement. Ouais, elles savaient que c'était aussi, bien.
J'étais pas aussi connu que toi.
Non, tu vois. Donc, ils étaient pas aussi attentionnés, je pense.
Ouais, voilà. Non, mais c'est des repères qui sont là pour te rassurer, comme dit Marc. La même douche. Moi, j'ai une anecdote et c'est décorrélé des résultats sportifs. Une année à Indian Wells, au tournoi, donc le Masters 1000, chez les hommes, il y a 6 douches, il y a 3 et 3 dans le vestiaire. Et sur les 6 douches, il y en avait peut-être 4 de libre, tu vois. Et moi, j'y vais pour aller me doucher. Je vois Nico Mahut, qui est entre les douches. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me fait, la mienne, elle est prise, je suis bloqué. Et c'est pas pour autant qu'il a gagné 12 fois Indian Wells, parce qu'il a fait des demi-finales.
Alors qu'il y avait des douches dispo, quoi.
Mais bien sûr.
Et le mec, il fallait qu'il attende sa douche.
Je suis bloqué, je suis complètement fou. Il me dit, tu le sais, ça, de toute façon. Il me dit, on l'est tous. Et je fais, oui, t'as raison. Voilà, il y a des choses comme ça. Bon, ouais, je sais pas, c'est un repère, c'est un cadre, ça rassure.
J'ai remarqué que Bennett, il a souvent des anecdotes sur Nico Mahut pour qu'on se foute de sa gueule quand il est pas là.
Les superstitions, les rituels, en fait, ça donne un semblant de contrôle dans une vie où on n'a pas le contrôle sur grand chose, en fait. Les athlètes de haut niveau, on est quand même sujet à plein de choses. On l'a parlé, l'adaptation avec des nouveaux cours, des nouvelles conditions pour performer, des nouveaux endroits. Nous, en tout cas, les joueurs de tennis, on joue dans des nouveaux endroits toutes les semaines, sur des nouveaux tournois. On est en permanence en train de s'adapter à des nouvelles choses. Et en fait, ces rituels, c'est avant tout pour se donner un cadre dans lequel on a l'impression de contrôler quelque chose. Parce que l'adversaire en face, on ne peut pas contrôler. Et en fait, tout
c'est pour ta santé mentale, en fait, presque aussi un peu, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu te facilites les choses.
Oui, en tout cas, c'est vraiment les choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle, on les laisse. Mais en revanche, les choses sur lesquelles on peut contrôler et qui nous rassurent, aller dans le même resto, manger la même chose, c'est
ça,
vraiment.
Ça, tu l'as fait, toi?
Pas trop, moi. Ça. Moi, les seules superstitions que j'avais, c'était quoi? Je demandais la balle toujours du même côté. au ramasseur de balles. Ah oui, ça, c'était vraiment quelque chose.
Non, mais c'est vrai, quand j'ai regardé jouer, quand j'étais capitaine, je me souviens. Ouais,
j'en avais pas beaucoup, mais ça.
Qu'est-ce qu'elle fait
Je posais toujours ma serviette au même endroit et le ramasseur, je demandais la balle au ramasseur de l'autre côté. Voilà.
Et ça t'a toujours fait ça?
En fait, je me levais de ma chaise et c'était une gymnastique mentale qui faisait que ça me mettait dans la même condition à chaque fois pour jouer mon point.
Dans la routine du point.
Ça te permet aussi de passer l'échange, en gros, pas trop réfléchir aussi, je pense.
En tout cas, je pense que c'est des choses qu'on met en place un peu de manière inconsciente. C'est ça qui est drôle.
Et quand vous récupérez les balles, quand le ramasseur de balles vous propose des balles, moi je prends pas celle-là, je prends pas celle-là, je prends celle-là. Là c'est quoi?
J'essayais de prendre celle qui était un peu plus neuve. Ouais. Donc là où le logo s'efface le moins.
Ah d'accord, donc
celle
tu
qui
regardes,
est un peu moins peluchée. Ouais.
En fait, quand on prend 3 balles, il y en a qui en prennent 4.
Tu joues combien de jeux avec un jeu de balles neuves?
7 et après 9.
D'accord.
Les 7 premiers jeux, parce qu'ils considèrent que l'échauffement a un petit peu usé la balle, au bout de 7 jeux, tu les changes et après, c'est au bout de 9. Mais oui, quand tu prends 3 balles, par exemple, ou 4 balles, tu regardes l'usure de la balle.
Bah là, c'est regardé au microscope.
C'est des ancrages dans le moment présent. En fait, quand tu regardes ta balle pour regarder laquelle est le moins usée,
en fait, t'es déjà
tu dévies ton esprit du stress, de la tension. Et tu restes dans le moment présent, t'as ta balle, t'as ta sensation d'avoir la balle dans ta main.
Ça y est, Christophe, j'ai l'impression qu'il se posait cette question depuis toujours et qu'il a enfin pu la poser à ce genre de tennis.
Tout
petit niveau. C'était pour ça. Je prendrais cette balle. Celle-là, elle est vraiment dégonflée, donc j'achète.
Il faut que j'en achète d'autres.
Surtout, toi, tu joues avec les balles du chien.
Les balles bleues, tu sais, comme les enfants. Les petits points bleus.
Dans le vestiaire des grandes gueules du sport, on parle des rituels et des superstitions. D'ailleurs, Marc, est-ce que c'est ridicule ou essentiel?
Essentiel.
Pourquoi ?
Parce que ça fait partie du...
Bien sûr.
Du compte à rebours et de la gestion de la course. Mmh. Et moi, j'ai une histoire qui s'est étalée sur 12 ans.
Ah oui ?
En 85, il faisait des temps pourris sur beaucoup de courses. Et à Paris-Nice, on avait les jambières, la neige fondue et tout. Et
super, déjà.
J'avais les jambières et je gagne l'étape.
Avec les jambières.
Avec les jambières.
Oh là là, je vois venir le truc.
15 jours après.
Vous êtes 35
ans. Temps pourri. Non, attends. Temps pourri à Cholet, Pays de Loire. Rejambières. Je regagne.
Aïe.
C'est l'effet.
Mois d'avril, arrive Paris-Roubaix. 85, toujours la même année. Temps pourri, neige fondue et tout. J'avais les jambières au départ, que j'ai enlevées en cours de route. Je gagne. Ah. Et les jambières, je les gardais.
C'est bien, tu les lavais pas, c'était les mêmes.
Chaque année, tu touches un équipement et je perds les jambières.
Aïe.
6 ans après, je refouille dans mes rangeant des sacs, je retrouve les jambières.
Jambières magiques.
Oh punaise.
Ne touchons plus rien.
Elles sont abîmées. Je vais quand même pas aller rouler avec ça, ça fait un peu dégueulasse. Je les ai transformées en genouillères. Donc j'ai pris les ciseaux, j'ai coupé les jambières et j'ai mis les genouillères. Et Paris-Roubaix, beau temps. Beau temps, mais j'ai quand même mis les jambières au départ.
Bien sûr.
Les jambières au départ, que j'ai enlevé en cours de route, je gagne.
Donc on a le secret de la réussite de Marc Madiot.
6 ans. Et attends, donc je raconte l'histoire que je viens de vous faire à mes coureurs quand je deviens manager d'équipe. Je leur raconte, j'avais les jambières et tout. Et mes coureurs me disent, les jambières, il faut que tu les retrouves et tu la donnes où tu les prêtes à l'un d'entre nous. Et oui, vous avez raison. On était en Belgique pour les courses flamandes. J'ai dit, mais il faut que je retourne à Renazé, machin. Tu prends ta bagnole et tu vas à Renazé. J'ai pris ma voiture de Belgique, je suis descendu en Mayenne, j'ai retourné la maison.
Combien d'heures de route?
Je sais pas, 6-7 heures.
Donc 14 heures aller-retour pour aller chercher les jambières magiques.
Et je retourne à la maison et je ne retrouve pas les jambières.
Oh là 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 là.
Et là, je me dis... C'est mieux que je ne retrouve pas les jambières. Parce que je vais avoir un problème si je les retrouve.
À qui je les file.
Et donc, je reviens au départ de Paris-Roubaix.
Donc 14 ans de route pour rien.
Au départ de Paris-Roubaix.
Bilan carbone terrible.
C'était à l'époque, ça.
6 ans après.
Ouais. Et Guédon avait retrouvé les jambières.
Non. Je n'ai pas retrouvé. Donc, je ne retrouve pas les jambières. Et je leur dis, je n'ai pas retrouvé les jambières, mais dans mon esprit, je les ai. Et je vais vous les transmettre.
Ah, c'est énorme. Ils sont possédés
ce dimanche.
Complètement ma boule, les gars.
Et, contre toute attente, là où Guédon n'aurait jamais dû gagner, Il a fait un sprint dans sa vie. Je me suis concentré sur lui. Je dis, Fredo, tu vas le faire.
T'as mes jambières.
Imagine que t'as les jambières.
Imagine que t'as les jambières.
Et Guédon a gagné. Et tous les 6 ans, on a gagné avec les jambières.
C'est incroyable.
Et est-ce
c'est
que, dingue. En tant que manager.
Quand je pense que Pogacar a des jambières.
Est-ce que, en tant que manager, t'es aussi superstitieux, voire oui. plus superstitieux que autant. Quand t'étais coureur?
Autant.
Ouais, pareil. Ouais, quand j'étais capitaine, je donnais complètement ma boule.
Ah bon?
Ah, c'est vrai? Ah, il y a des choses que je sais.
Ah, bah, tu vas apprendre des choses, Alizé.
On n'en dit pas. On n'en parle pas, on a dit.
Mais maintenant, on peut le dire.
Mais maintenant, on peut le dire, ouais.
Bah, il y a.
Bennett.
Contre.
J'ai
contre
peur.
T'avais une poupée la... vaudou avec Alizé Cornet.
Contre la Roumanie. Contre la Roumanie, l'année où on gagne.
Ouais, ouais.
Sur le double décisif. Au début, ça break pour nous. Et je venais de boire 2 gorgées de Perrier.
Il faut que je dise du coup San Pellegrino. Et.
Le mec a eu envie de pisser tout le match.
Elles ont gagné 6-4 au 3ème. Le double a duré 2h45. J'ai dû boire 4 litres de Perrier parce que je pensais qu'en buvant 2 gorgées à chaque fois, on allait breaker.
Je n'en pouvais malades, plus à la fin. Vous êtes des grands malades.
J'avais mal au bide, j'avais envie de pisser, comme tu dis. Je ne pouvais plus, j'ai dû boire, je te jure. Je me retournais vers le staff, il me passait les canettes, je les passais.
Et tu sais que ça me tend une perche, parce que c'est ce que je voulais évoquer. Attention quand même, parce que les routines et surtout les superstitions, ça peut vraiment devenir des prisons mentales. Parce qu'en fait, t'as l'impression que sans les mettre en place, tu ne peux pas gagner, tu ne peux plus performer.
Mais c'est ce que dit Rafa.
Et il y a des joueurs qui s'enferment là-dedans. Oui, mais si tu n'arrives pas à recréer toutes les conditions, parce que là, Rafa, il peut se remettre son slip 10 fois, il n'y a que lui qui contrôle.
Le matériel.
Mais par exemple, le resto dans lequel tu vas est fermé.
Il peut être fermé.
Tu vois, et à un moment donné, si tu deviens fou parce que tu ne mets pas en place toutes tes superstitions, ça peut te faire complètement perdre ta lucidité et tu peux te dire non mais je peux pas y arriver sans ça en fait. C'est dangereux quand même quelque
j'avais
part.
J'avais un entraîneur quand j'étais plus jeune.
On est dans les vestiaires des grandes gueules du sport.
Qui ne croyait pas du tout à ça et qui justement essayait de nous sortir de ça. Et on était au début de notre carrière, on était sur les circuits challengers, sur les trucs comme ça. Et puis on en parlait et il trouvait ça tellement comment dire
limitant presque.
Limitant, un peu puéril et limitant qu'il en faisait de l'humour et quand on arrivait dans les, puisqu'on parle des vestiaires, des douches ou des toilettes, il y a les urinoirs chez les hommes. Il appelait ça la pissotière. Et là, il arrivait, il fait ah, c'est la pissotière de gauche, celle qui gagne, celle-ci. Genre parce qu'il avait vu qu'on allait toujours. Et en fait, il en rajoutait pour nous montrer à quel point bon, ok, vous avez besoin de cadre, vous avez besoin de repères, mais à un moment donné, ça peut être limitant ou freinant.
Non mais voilà, effectivement, on entend souvent parler des chaussettes magiques, c'était les jambières. Souvenez-vous de la pub avec Zidane.
Volvic.
Tout d'abord, la jambe gauche. Pour mettre la chaussette.
Mais moi, aujourd'hui encore, même si je monte jamais sur un vélo.
T'es en jambière, là ?
Non. J'enclenchais toujours la pédale droite avant la pédale gauche.
Ouais, mais c'est des repères, c'est des rituels.
Obligatoire. Et si jamais je loupais la droite et que j'enclenchais la gauche, je désenclenchais pour recommencer par la droite.
Non mais c'est vrai que ça peut être limitant à un moment donné.
Non,
pour le coup.
Pas du tout. C'est rassurant.
T'en as vu des très superstitieux dans le peloton, Pierre?
Il y en a plein. Par exemple, les places dans les bus.
Bah oui.
Places dans les bus, tu touches pas à certaines places, hein.
Sinon quoi?
Il y a un siège maudit. Ça peut mal se passer entre les coureurs. ils finissent toujours par trouver un arrangement, mais. Telle place, c'est tel coureur.
Écoute, c'est
hyper magnifique. Intéressant. Ce serait bien d'avoir une compilation en fait de toutes les superstitions de tous les athlètes en fonction de leur sport.
Ouais,
on parle des sportifs, mais dans le monde des affaires, c'est la même chose.
Ouais, je pense qu'il y a
quand vous allez dans des conseils d'administration, regardez bien quand vous allez dans des conseils.
Des rituels,
si vous participez à des conseils d'administration, chacun reprend la place qu'il avait la fois précédente. Quand on est dans la même salle.
C'est des repères, en fait.
Et dans le studio des grandes gueules du sport, globalement, les positions.
Je suis toujours à ta gauche aujourd'hui. Je n'ai jamais été à ta droite.
Ouais, même. Voilà, c'est ça.
Il y a
on est possédé.
Il y a écrit, en tout cas. Une superstition de tous les champions.
Et Chris, il pense déjà à un business. Mais il y a un bouquin.
Non,
il y a de l'argent à se faire.
Franchement, vous me régalez là.
Un bouquin de témoignages un peu
décalé. Tu racontes ces histoires, ça fait marrer tout le monde.
Je pense qu'il y a un bon Richard Gasquet, il est bien superstitieux aussi.
Richard, il avait avant de retourner, il faisait un truc avec sa raquette.
Un carré,
il touchait la terre battue ou le coin, il faisait toujours 1, 2, 3, 4.
Ah ouais, il faisait un carré sur la terre battue.
Il dessinait pas, c'est pas plus dur au gazon, avec sa raquette, il touchait.
C'est Picasso, le mec,
qui faisait une sorte de carré, il faisait quatre côtés comme ça, tac, tac, et après, il tournait.
S'il bouffait une escalope avant son premier tour et qu'il gagnait, ouais, il bouffait la même escalope.
Attendez, et juste pour terminer, Rafa, t'as joué contre Rafa, Bellet, Rafael Nadal, parce que c'est pas mon pote, mais c'était pas insupportable de le voir faire tous ces trucs, hein, son rituel. Moi, vas-y, et vas-y, il va se toucher les sourcils, et vas-y, il va remettre ça, et vas-y, il va nettoyer. La ligne.
Ouais, je l'ai jamais joué sur terre, donc il nettoyait.
Et vas-y, qu'il va remettre ses bouteilles.
Les bouteilles, il fait ce qu'il veut sur le champ de côté, ça me dérangeait pas. Non, il y avait deux joueurs où ça me dérangeait, c'est lui et Djokovic. C'est entre la première balle et la deuxième balle de service. Parce que là, eux, ils reprennent beaucoup de temps à ce moment-là.
Ils font rebondir la balle 50 fois.
Et alors, Djokovic fait rebondir la balle 50 fois. Et Nadal, avant de faire rebondir la balle, il a de nouveau un petit rituel avec son bandeau, ses yeux, etc. Et en fait, toi, quand t'es au retour de service, le rythme et le tempo,
il te casse le rythme.
Voilà, et ça te change de ta routine à toi. Et donc là, il faut intégrer ça parce que c'est différent.
Et en plus, t'as remarqué que c'est move à Rafa, ils ont été de plus en plus longs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils rajoutaient un truc à chaque fois. Au début, c'était le slip, la raquette. Après, c'était les cheveux derrière les oreilles, le nez. Non, mais enfin, à la fin, sa routine, elle durait 20 secondes entre chaque service.
Allez, oui, les matchs auraient pu durer 2 heures et durer 5 heures, du coup. Avec Nadal. Allez, on referme la porte du vestiaire. C'était passionnant, les amis, de vous écouter comme d'habitude. On va aller au Grand Prix de Monaco dans quelques instants. Tiens, d'ailleurs, j'ai écouté Charles Leclerc cette semaine, le pilote Ferrari, qui a dit quand je suis à Monaco, c'est le seul endroit où j'essaie de changer un petit peu ma routine. Par exemple, je vais pas mettre la même musique pour venir sur le terrain. Donc, on va en parler dans un instant. On va accueillir Jean-Luc Roy. Hamilton et Verstappen sont de retour au premier plan. Est-ce que ça relance la F1 ? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, les jeux du sport, inscrivez-vous d'ailleurs, hein, vous pouvez encore participer, vous envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16, vous appelez le 32-16, touche 4. Aujourd'hui, vous pouvez gagner une enceinte portable Mino X de Lexon, une enceinte Bluetooth flottante, c'est parfait pour l'été qui arrive, et puis en plus, vous venez, vous êtes une GG avec nous, vous participez avec vos personnalités préférées. Tiens, on vous offre également un album Panini, Coupe du Monde de la FIFA 2026 et 350 stickers, vous envoyez Panini au 7-32-16, Panini 7-32-16. Mais d'abord la Formule 1 avec le Grand Prix Monaco à 15h avec deux légendes qui retoquent à la porte.
RMC, les GG sur le buzzer.
Ah, l'ami Julien Febro, c'était en 2021. Souvenez-vous quand Verstappen avait remporté le titre mondial au dernier virage, pratiquement, contre Hamilton.
Gasly, quand il gagne son Grand Prix.
Ouais, accélère c'est bon, ça. Vas-y, mon grand, très grand. Ah non, ça, c'est pas lui. Ça, c'était toi. Alors, on en a longtemps cru. Hier, une première ligne, Verstappen-Hamilton à Monaco. Hein. Ils ont finalement été devancés par un jeune loup. J'étais un peu dégoûté, moi, je dois le reconnaître. Kimi Antonelli, 19 ans, leader du championnat du monde. C'est lui au volant de sa Mercedes qui partira en pole devant les deux légendes qui reviennent au premier plan. Hamilton et Verstappen s'étaient déjà tiré la bourre au Grand Prix du Canada il y a 2 semaines avec sa Ferrari britannique de 41 ans, 7 couronnes mondiales, avait fini deuxième devant son meilleur rival aux 4 titres. Vous vous rendez compte, à eux deux, ils en ont 11. Les GG, je vous pose la question, très simple. Est-ce que le retour au premier plan d'Hamilton et de Verstappen relance la Formule 1 ? Christophe Cessieux.
Oui, ça... Ça redonne un petit talent supplémentaire.
Ça t'excite ou pas ?
Ouais.
Mais tu me.
Oui.
Allez,
oui,
ça
oui,
t'excite
oui.
ou pas ?
Oui, mais
Christophe.
Ça m'excite s'ils peuvent se bagarrer pour le titre mondial.
Voilà.
Donc non.
Voilà. Oui, ça m'excite un peu, mais ça ne fait pas monter au grimpeur idée.
T'es content ?
Oui, je suis plutôt content.
Il a envie qu'on soit content pour ça, parce que son débat, il l'a fait. Il l'a poudré hier en prenant la pole, donc il est défait.
Ah ben non, moi je suis hyper content.
Non, pas plus que ça pour l'instant.
Alizé.
Pour des gens qui ne connaissent pas bien la F1 comme moi, oui. Ah, parce qu'en fait, voilà. C'est des repères.
Et voilà, bien sûr, Marc Madio.
Non, ça ne relance pas, parce que la F1 n'a pas besoin de relance.
Oh là,
et oui, c'était un peu au début ce que je me disais. Est-ce que la F1 a besoin d'être relancée en fait
Non, mais
un petit peu cette année,
la F1 est plus forte que les pilotes.
Un petit peu cette année quand même.
Mais bon, écoutez, la voix de la Formule 1 sur RMC nous rejoint. Ça, c'est l'icône, c'est la légende. On a besoin, elle est plus forte que la Formule 1. C'est le roi, tout simplement. C'est Jean-Luc Roy qui est avec nous.
King. Ah, vous allez me gêner. Salut à tous.
Évidemment, vous participez au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424.
Un roi dans la principauté.
424 à. Merci Bennett, on se retrouvera la semaine prochaine. Tiens, alors Jean-Luc, avant de t'écouter, Christophe, toi pourquoi t'es content de revoir Hamilton?
Non, mais parce que moi j'ai ça. C'est l'image du podium au Canada il y a 15 jours, de voir le petit prince, le nouveau petit génie de la Formule 1, entouré par ces deux cadors. Ces deux darons que sont Verstappen et Hamilton, ça m'a fait plaisir. Et puis on a tous en mémoire effectivement l'épilogue de cette saison 2021, cette bagarre de tous les instants entre Verstappen et Hamilton. Et c'est vrai que depuis on a plus connu de moments aussi dingues. Verstappen a complètement dominé la Formule 1. Hamilton n'avait plus vraiment la fibre. Et de les voir à nouveau peut-être se tirer la bourre, ça nous met en joie parce qu'on se dit que peut-être ils vont redevenir ce qu'ils ont été, et puis essayer de se battre face à Antonelli. Après, ça arrive un peu tard cette saison parce que le titre me semble déjà un peu joué. Je pense pas que Hamilton et Verstappen puissent rattraper Antonelli, qui en plus, même s'ils sont là tous les deux, pour l'instant ils sont deuxième et troisième parce que l'autre il met tout le monde à l'amende quand même, le petit Italien jusqu'à présent.
Non mais c'est vrai. Alors les repères du grand public, Jean-Luc, on va t'écouter dans un instant. Alizé, tu disais, non mais c'est comme par exemple même le grand public sur la deuxième semaine de Roland-Garros. Non, mais si on fait
un parallèle avec le tennis, c'est sûr qu'on a tous du mal à dire au revoir à des générations qui nous ont bercés pendant des années, qui ont été très forts, qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait rêver. On peut faire le parallèle avec un Rafa, un Roger, un Djoko. Et quand il y a la nouvelle génération qui arrive, on est très content parce que ça fait des nouveaux visages et en plus c'est des nouvelles générations très performantes. Mais en même temps, ça nous bouscule un peu nos repères et on se dit attention quand même. Et tu l'as dit toi-même, Christophe, quand même, Antonelli, ça fait un peu suer qu'il soit premier. Nous, on a envie de rester accrochés en fait à nos idéaux et ça prend un petit peu de temps pour déconstruire ça.
T'étais contente quand tu revoyais même très tard dans leur carrière un Federer-Nadal en finale de Grand Chelem?
Bah évidemment, et après on pleure que ça n'arrive plus et que finalement ce soit la fin d'une ère. Et là, alors autant avec Hamilton, il a 41 ans, donc quand même, alors je sais pas encore combien de temps il va piloter, mais hein, c'est jusqu'à quel âge qu'on peut piloter d'ailleurs au plus haut niveau?
Il n'y a pas l'âge. Ah,
ok.
C'est comme pour la radio, Christophe.
Autant que je t'appelle.
Jean-Luc est toujours là.
Non, mais tiens, Jean-Luc, toi sur cette question, est-ce que ce retour en premier plan, il peut être durable ou est-ce qu'il est juste circonstanciel, tu penses, Hamilton et Verstappen?
On va parler de saison. Même les pilotes ont eux-mêmes du mal à se projeter, si tu veux, sur la durée. Mais pour le moment, il va être durable, oui, parce qu'a priori, on le sait, les Ferrari. Ah ben oui, les Ferrari progressent et surtout Hamilton se sent maintenant à l'aise. Et c'est vraiment la première fois depuis le Grand Prix du Canada. Vous évoquiez tout à l'heure le podium, Christophe en parlait, et on retrouve les trois mêmes. Et c'est pas impossible qu'on ait souvent cette scène. Ce qui était très sympa aussi, c'est après les qualifs, là justement, de voir Hamilton et Verstappen s'attraper par les épaules et par la taille,
complices.
Ça, c'est très sympa. Ouais. Et puis, je pense que ce sont des références, effectivement. Il totalise, on le rappelle, Hamilton, il est tellement tout en haut avec le nombre de victoires 105, le nombre de pôles 104. Bon, c'est ahurissant. Derrière, dans les deux cas, on a Schumacher. Et puis, pas très loin derrière, on a Verstappen qui grignote. Mais avoir un petit jeune comme ça, 19 ans, le gamin, vous vous rendez compte? Il avait participé à 24 Grands Prix la saison dernière. Bon, il avait eu un passage à vide d'une dizaine de Grands Prix au milieu de la saison. Il s'est un peu repris à la fin. Et puis là, c'est incroyable. C'est son année.
Mais toi, Jean-Luc, toi qui n'as pas forcément été très fan de la nouvelle Formule 1 avec la nouvelle réglementation. Le fait de voir justement ces garçons, on disait même il y a quelques semaines, est-ce que Verstappen va vouloir continuer à faire de la Formule 1? Et de voir Verstappen et Hamilton, est-ce que ça fait du bien à la F1 en fait? Parce que là, on dit, est-ce que ça relance la F1? Est-ce que c'est une bénédiction pour la F1?
Mais évidemment, comme Alizé l'a évoqué, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il faut des références. La référence, c'est l'ancien champion, le taulier, quoi. Celui qui est là, celui qui est en place. Alors, Hamilton, il était passé au deuxième plan parce que vous l'avez dit aussi, depuis la perte de son titre, pour diverses raisons, la machine chez Mercedes et puis ça n'allait pas chez Ferrari. Il était plus une référence comme Alonso. Je vais vous citer encore un pilote que vous adorez, forcément, qui a été un grand pilote, qui l'est toujours, mais il n'a pas la machine, donc c'est pas une référence. Donc, on aime bien se mesurer à l'ancien, celui qui est dans la place. L'ancien, c'est à 28 ans, c'est Verstappen, et le nouveau, Bah, c'est Antonelli qui a 19 ans seulement. Alors, les stats, c'est toujours important parce que on peut aligner les chiffres comme ça, mais c'est surtout, vous le savez, moi j'aime bien le pourcentage. Or, pourcentage de victoires, par exemple, par rapport au nombre de Grands Prix. Hamilton est à un peu plus de 27. Schumacher est à un peu plus de 29, Verstappen est à un peu plus de 29, donc vous allez me dire, ok, un Prost est à 25, par exemple, un Senna est à 25, voyez. Et quand on remarque que Antonelli, il est déjà à presque 14. C'est-à-dire que dans ceux qui ont décroché 4 victoires.
Mais Dieu, parle-nous d'émotion, ne parle pas de chiffres, Jean-Luc.
On dirait un professeur
de mathématiques.
Une fois, ce que je veux te dire, mon Chris, c'est que, et surtout si on fait référence à cette saison, alors qu'il y a eu 6 pôles de disputés, il en a décroché 4, le gamin. Tu te rends compte?
C'est pour ça
qu'il enrhume totalement Russell, dont tout le monde, moi y compris, faisait l'un des grands favoris de la saison.
C'est pour ça que toi, Marc, c'est pour ça que tu dis pas que le retour d'Hamilton et Verstappen relance la F1, parce que justement, non, t'es un peu dans le train de cette saison. Ouais, le Antonelli et tout
dans,
ça, t'adores.
On est quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai regardé hier la séance de qualif. C'était exceptionnel. C'était du grand art avec des gens au sommet de leur niveau.
Mais moi, justement, je trouve que Antonelli, qui est encore en train de s'imposer dans sa personnalité, ça lui donne de l'épaisseur de réussir à Monaco, de faire la pole devant Hamilton et Verstappen.
Hier, il a vraiment passé un cap.
Franchement,
je pensais pas qu'il allait faire la pole.
Mais ce qui serait génial.
Il va la chercher pour des millièmes. Là, j'attends de voir le départ aujourd'hui, ça va être super sympa.
C'est qu'on efface tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et qu'on fasse débuter le championnat du monde de Formule 1 aujourd'hui.
Alors,
avec des voitures qui sont rapprochées, je sais que c'est pas possible, mais là, on aurait sans doute une grande bagarre. Le problème, c'est qu'il a tellement d'avance déjà, Antonelli, que pour le titre mondial, la bagarre est déjà
prise. C'est pas fini. Mais il va avoir un passage à vue.
On est au 6e Grand Prix, on est au quart même.
Ouais, mais regarde l'écart déjà.
Ouais, mais arrête de croire à chaque fois que ça va se terminer. L'année dernière, on a eu du suspense jusqu'à la fin, au final, alors que personne n'y croit. Bennett.
Alors c'est bien le duel Hamilton-Verstappen. Effectivement, ça nous fait revivre des années exceptionnelles. Mais
t'y crois pas en fait. Tu crois que c'est ponctuel là.
Ouais, je pense que c'est des trucs de circonstances. Je pense qu'au Canada, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'ils sont de course, qu'ils ont fait qu'ils se sont retrouvés deuxième et troisième. Monaco est un circuit particulier où la part du pilote elle est quand même un peu plus importante que sur les autres circuits. Et je parle sous le contrôle de Jean-Luc. Et je pense malheureusement pour la saison, pour l'instant, les Mercedes sont un peu au-dessus. Et j'ai peur. Déjà, Anthony, alors il est exceptionnel et je pense qu'il est en train d'enterrer un petit peu Russell aussi. Russell, il est quand même. Il prend des coups durs week-end après week-end. Et je sais pas si les Ferrari et si les Red Bull vont être à mesure de se battre avec les Mercedes. Même McLaren
se sont rapprochés. Russell partira sixième aujourd'hui.
Donc du coup, s'ils se battent pour la quatrième, la cinquième place, ou troisième, quatrième, ça m'excite pas plus que ça, en fait.
Mais en fait, ce qui est important aussi quand on voit Hamilton et Verstappen revenir, c'est que ça nous dit aussi que peut-être il y a pas de pilote qui s'est encore imposé de par sa personnalité. C'est-à-dire que Norris, qui a été champion du monde, peut-être n'a pas eu l'épaisseur pour devenir une personnalité incontournable. Piastri aussi. Donc c'est pour ça qu'on pose ce débat aujourd'hui.
Antonelli, je pense qu'effectivement, Antonelli, vu ce qu'il a montré depuis le début de la saison et cette Q3 hier où il bat tout le monde finalement sur le dernier tour, là, et comme le disait Marc, il a pris de l'épaisseur et aujourd'hui, je pense qu'il est le vrai taulier en devenir.
Jean-Luc,
il y a quand même un moment qui va être décisif, c'est le départ d'aujourd'hui.
Alors justement, c'est la question que j'allais poser, Jean-Luc, parce qu'on dit souvent que la pole est décisive à Monaco.
Non, les 20 dernières années, ça fait un tiers.
Mais alors justement, quelles sont les idées reçues, peut-être ? Est-ce que Hamilton et Verstappen peuvent faire tomber le jeune loup aujourd'hui sur le circuit urbain de Monaco ?
Ils y mettent deux.
Non seulement ils peuvent, mais ils vont tout faire pour ça. Tu peux leur faire confiance. Et le problème, c'est que, alors, c'était un peu moins pire, on va dire, lors du Grand Prix du Canada, mais le départ des Mercedes posait problème depuis le début de la saison. On a travaillé là-dessus, ça allait un petit peu mieux. Je pense que les pilotes ont assimilé. C'est tout un processus très très compliqué où la technologie intervient énormément. C'est pas le pilote qui rate son départ, c'est la technologie de la voiture qui lui permet pas de bien partir. C'est différent. Et du côté de chez Ferrari, on a choisi des options différentes et on a vu depuis le début de la saison, avec notamment un petit turbo qui est en action très rapidement pour pas rentrer dans la technique, on a vu que les Ferrari bondissaient littéralement. Alors, voir un Hamilton devancer tout le monde au freinage de Sainte-Dévote, pourquoi pas. Il aura 148 mètres, hein, exactement, je les ai comptés. Donc 148 mètres pour se trouver devant, c'est très court. C'est très très court, c'est très difficile. Et c'est ce qui donne lieu, évidemment, à quelques frictions, c'est le moins qu'on puisse dire, au freinage de Sainte-Dévote. Mais oui, évidemment que Verstappen et Hamilton disent « Bon, mon petit gars, t'es bien gentil, t'es bourré de talent, t'as une bonne voiture, mais on va te montrer qui c'est les patrons, surtout dans les rues de Monaco. »
Donc hâte d'entendre ça et ça va être aujourd'hui déjà que le Grand Prix Monaco est un Grand Prix qu'on a toujours envie de suivre et la Formule 1 bien sûr, mais là il y a une histoire dans l'histoire qui nous donne envie de suivre ça. 15h le départ du Grand Prix de Monaco, Jean-Luc, là il va falloir envoyer les watts, hein.
Finale de Roland et Grand Prix de Monaco en même temps.
Il va falloir double
vous avez qu'à écouter la fin de la qualifière, vous allez voir.
Alizé, t'es en train de nous dire tu vas regarder le Grand Prix Monaco, c'est incroyable, tu vas l'écouter sur RMC, tu peux faire les deux.
Du plateau de France Télé, je vais regarder le départ. Oui,
excusez-moi, j'écoute en même temps Jean-Luc Croix. Tu me diras.
Il y a l'arrivée de la première étape du Dauphiné aussi. Ouais,
du Tour en Vergé.
Ouais, beaucoup
bon, enfin, trop riche. Moi, je l'appelle
comme ça. Un Dauphiné libéré pour
toi. Voilà, exactement.
Jean-Luc, à libéré. Tout à l'heure. Tu nous as évidemment donné l'eau à la bouche avant ce Grand Prix de Monaco. Hâte de vivre ça tous ensemble sur RMC où vous ne raterez rien. Rien, pas besoin de faire de double écran. Non, il vous faut une radio.
Tout,
ou un smartphone et l'application RMC.
Il va falloir que je gère tous ces petits bonhommes quand même, hein, parce qu'ils sont bavards.
Hein. Ouais. Mais écoute, hein, c'est. Bah, tu fais ça très bien. Tu fais ça très
parce
bien.
Qu'on aime ça, c'est parce qu'on aime ça.
Là, c'est pour couper. Pour couper la chic à Hawking, c'est pas facile. Mais,
Jean-Luc, t'as vu, il dit ça alors que lui, c'est comme si lui était le meilleur élève pour.
Honnêtement, moi, j'écoute ce que Christophe me dit. Et Kylian.
Notre producteur. Allez, les jeux du sport arrivent dans un instant sur RMC. À tout de suite.
Maman.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Ah, les grandes gueules du sport s'encouragent avant les jeux du sport.
Maman.
RMC, les jeux du sport.
C'est un Rafa Nadal chihuahua. Ah bon.
Et il le disait un peu avec une voix aiguë des
fois. Ouais, c'est vrai, On l'embrasse, Rafa, il est bienvenu.
Je l'ai beaucoup analysé, tu sais.
Ouais, j'ai l'impression.
Il me manque,
ouais,
Rafa, tous les jours. Et Carlos aussi.
Ouais, c'est un cri du cœur, là.
Ouais, et voilà.
Avec Carlos qui va devenir entraîneur-dessineur.
Voilà. Allez, non, ça, c'est pas prêt d'arriver.
Mais non, mais je parle de Carlitos, Alcaraz, par Juan Carlos.
Allez, les deux contre deux, je rappelle, dans les jeux du sport. Répartition des équipes. Christophe Cessieux, Alizé Cornet. Donc, Denis Marc Madio avec Michel Drucker. Donc, ah pardon, Julien Benneteau. La question impossible activable par un seul joueur par émission. Le seul à jouer, une bonne réponse c'est 3 points. Mauvaise réponse, 1 point en moins. Les auditeurs, Ludovic nous appelle du Nord. Salut Ludovic.
Salut, bonjour tout le monde.
Et Philippe des Yvelines, salut Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Et ben Ludovic, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe, Cessieux Cornet ou Benneteau Madio.
Benneteau Madio, s'il vous plaît.
Benneteau Madio, bah oui, quand on vient du Nord, on a vu Marc gagner de Paris-Roubaix, évidemment.
Avec des jambières.
Avec des jambières, voilà, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est que sans jambières, il n'aurait jamais gagné. Et donc, voilà. Allez, j'allais faire une vanne en plus, et en fait, j'en avais pas. Extra vanne.
Voilà.
Vous remportez votre enceinte portable Mino 10 de Lexon. On n'ira pas au Comedy Club ensemble, finalement. Question à une seule réponse, les GG. Question à une seule réponse.
Allez, concentre-toi, Christophe. Hein.
J'ai donné la réponse plusieurs fois dans l'émission, volontairement. Dans quel stade va se jouer le match d'ouverture de la Coupe du Monde? Les Stadios Azteca, bien joué, Bennett.
Il est impérial.
1-0 pour l'équipe.
Même pas le temps de
Mathieu Benneteau.
Prononcer le premier mot, il dit
j'ai
déjà.
J'ai mon coéquipier, là, je suis tranquille.
Question,
là, c'est pénard, mais moi, je veux.
Question à plusieurs réponses. Nous sommes en 2026, vous êtes au courant? Qui a gagné le Grand Prix de Monaco il y a 20 ans, en 2006?
Alonso.
Alonso.
Ah, j'allais dire Alonso, en plus, incroyable. C'est le seul que je connais en même temps, donc.
Un partout. L'honnêteté.
De cette époque, hein.
Ouais, parce que alors que maintenant
je suis calé grâce à vous,
Gasly.
Les GG. Je suis calé comme jamais.
Toi et ton travail, et Jean-Luc Croix. Un partout. Question auditeur, c'est pour vous, Ludovic et Philippe, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Ok, les gars?
Ok, oui.
Quelle équipe a terminé première de la saison régulière en top 14?
Stade Toulousain, Philippe.
Philippe, point pour l'équipe Cessieux Cornet. De
Vamos.
Vamos. Question à une seule réponse. Les GG. Qui est le dernier Français à être monté sur le podium du Dauphiné en vélo?
Pinot, vainqueur.
Pinot. Ah non, mesdames.
Le podium.
Sur
le
podium.
C'était son coureur.
Non, mais c'est. J'ai bien avant lui.
Mais ça annule, je crois. Ça annule.
Vous êtes ensemble.
Je pensais que tu allais dire dernier
podium. Tu te rappelles ton coureur a terminé en 2020 sur le podium, quoi.
Mais pas Jérôme Pinot, du coup.
Non.
On était tranquille avec lui sur les podiums.
On s'embrasse.
On l'embrasse, Jérôme. Question à plusieurs réponses. Nous sommes en 2026. Vous êtes au courant? Qui a gagné Roland Garros chez les garçons il y a 30 ans? Plusieurs réponses possibles. En 96.
Kafelnikov.
Kafelnikov.
No way. What? Comment tu peux aller aussi vite?
Alizé Cornet parle trois langues dans ces jeux, hein. Français, espagnol et anglais. Trois pour l'équipe Mathieu Beneteau. Question auditeur. C'est pour vous, Ludovic et Philippe. Votre réponse.
Allez, Ludo.
Votre prénom.
Faut qu'elle le gagne.
Ludo et Philippe. En Formule 1, qui partira en pôle à Monaco aujourd'hui?
Antonelli. Verstappen.
Qui a dit Antonelli?
Moi,
bon,
Ludo.
Yes. 4-2. Même si c'était Antonelli, j'ai l'impression, mais allez, j'accepte. Parce qu'on accepte des réponses à Denis, parfois. Question à élimination, 4-2. Je rappelle, question à élimination, c'est pour 2 points. Hein. Vous répondez, et à tour de rôle, une erreur, et vous êtes éliminé. La Coupe du Monde commence jeudi. Football.
Voilà.
Donnez-moi, s'il vous plaît, tous les pays qui ont joué une finale de la Coupe du Monde depuis 1930, depuis la première en Uruguay. Alizé Cornet.
Italie,
c'est bon.
Attends, quoi,
Julien Beneteau.
Brésil.
Le Brésil, c'est bon. Christophe Cessieux.
L'Uruguay.
L'Uruguay, c'est bon. Il y a la première en 1930 chez eux. Marc.
Hollande.
Hollande, Pays-Bas, j'accepte. 78, finale perdue contre l'Argentine.
Le final de
Alizé.
France.
La France, c'est bon.
J'ai pas de stylo.
Julien Beneteau.
L'Espagne,
c'est bon. Christophe,
on... La Croatie,
on cherche les finalistes de la Coupe du Monde. Marc.
L'Italie
déjà donnée, éliminée. Alizé Cornet,
Portugal.
Le Portugal, c'est pas bon, éliminé. C'est terrible.
Non.
Ah ouais, en fait, non. Bennett.
L'Allemagne,
c'est bon, évidemment. Christophe.
La Hongrie,
c'est bon.
Incroyable.
Marc éliminé, c'est entre Bennett et Christophe. Bennett, 5. 4.
L'Argentine,
c'est bon.
Il me l'a enlevé.
Il en reste 3, 5, 4, 3, 2, 1.
Je l'ai plus.
0.
L'Angleterre.
Les 2 points en plus pour l'équipe de Jérôme.
Il y a combien?
Question impossible ou pas?
Oui.
Question impossible.
Non, j'ai dit oui d'abord.
Non, Alizé a dit oui d'abord.
Et en plus, je l'aurai jamais, donc t'inquiète pas.
Alizé a dit oui d'abord. C'est pour Alizé, question impossible, s'il vous plaît.
Attends, il y a combien là?
Il y a. 6-2. Donc pour 3 points, tu peux revenir à un bon. Alizé, c'est impossible.
Premier set, Mathieu Beneteau.
Impossible. Alizé, Sam Gross, joueur australien, est surtout connu pour être le détenteur du record du service le plus rapide de l'histoire. À combien a-t-il été flashé à 3 km heure près?
Je sais ça.
À 3 km heure près.
Je sais. Donc, je vais dire 250.
250?
Oui.
À 3 km heure près.
Je vais dire 251, moi.
T'allais dire 251? Ouais. T'allais dire quoi, toi?
210.
Non.
210, mais moi je
rappelle. Je sais rien.
La bonne réponse était 263 km/h. C'est perdu
mais
pour.
C'est impossible.
Victoire de l'équipe Beneteau Mago. Bravo Ludo, c'est toi qui t'impose.
Désolé Christophe.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Merci.
Il a eu 3 opérations de l'épaule, hein, grosse conne.
Il y a l'épaule, tu penses qu'il y a avec? Tu penses qu'il y a une grosse opération?
Non, je déconne.
Grosse?
Je sais pas. Oui, elle est belle. Allez, bonne journée tout le monde.
Merci pour l'ensemble de votre œuvre. Julien Beneteau part en costard. Alizé Cornet part perdante.
Merci
comme
à tous.
Christophe Cessieux. Et Marc Madiot, que je remercie évidemment pour ce week-end. Les grandes gueules du sport. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Mais restez avec nous tout de suite, les Paris RMC.
Jusqu'à 13h. Les Paris RMC.